Pascal L'Équipe.
Croisé, courte, gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour une heure d'actualité tennis. La petite balle jaune, la montée en puissance vers Roland-Garros se précise. Le Tour d'Europe de la terre battue se poursuit. Après Madrid, la semaine dernière, les forces en présence sont à Rome. Cette semaine, on enchaîne deux Master 1000 consécutivement. Et celui qui enchaîne, lui, depuis le début d'année, c'est Novak Djokovic. Invincible, 33 victoires consécutives. Et il a battu l'invincible sur terre battue, Rafael Nadal. L'impensable est arrivé, la secousse, le tremblement de terre. C'était dimanche, vous l'avez vécu en direct et en intégralité sur l'antenne d'RTL L'Équipe. La victoire donc du Joker face à Rafael Nadal, 7-6, 6-4 en finale de Madrid. Alors est-ce que ça change la donne en vue de Roland-Garros? Un petit peu, beaucoup, pas du tout. On va essayer de comprendre tout ça en parlant bien sûr de Rome où Djokovic continue d'avancer à grande allure alors que Rafael Nadal s'est fait toutes les frayeurs du monde face à un Italien inconnu 148e mondial. Qu'arrive-t-il à Rafael Nadal? C'est l'ombre de lui-même, l'Espagnol, depuis cette défaite du côté de Madrid. Chez les Français, ça va bien pour Richard Gasquet qui nous fait plaisir à Rome et qui affronte tout à l'heure Roger Federer. Là aussi, on espère pourquoi pas un exploit. Exploit que n'a pas réussi Joe Wilfried Tsonga hier face au Suisse. Sèchement battu le Français et qui est renvoyé un petit peu à ses études. Puis, les mauvaises nouvelles également. Les Argentins qui baissent pavillon avant Roland-Garros. Pas de David Nalbandian à Roland cette année. Et sans doute pas, en tout cas très peu de chance, de voir Juan Martín Del Potro blessés tous les deux. Ils ne devraient pas défendre leur chance du côté de Roland-Garros. Et puis les organismes sont mis à rude épreuve. David Ferrer, qui a beaucoup joué depuis le début de la saison, a déclaré forfait à Rome pour se préserver en vue de Roland-Garros. Chez les filles, pas grand-chose de nouveau. Ça ne va toujours pas très bien sur terre battue pour Marion Bartoli. Vitova a fini par gagner Madrid, on vous le disait la semaine dernière dans Carrément Tennis. Attention à cette jeune fille, Azarenka était en finale, peut-être deux belles outsiders en vue de Roland-Garros pour la saison 2011.
Like RTL L'Équipe, Carrément Tennis.
Toujours pas de Benoît Mélin dans cette émission qui a décidé... qu'il
nous abandonne complètement.
Voilà, bah, nous aussi on l'abandonne. Allez, va mourir Benoît Mélin comme on dit. Allez, au plaisir de te retrouver. Pendant Roland-Garros, vous pouvez le suivre avec tous ses acolytes sur Orange Sport, bien sûr, durant le Master 1000 de Rome. Tous les autres sont là. Et comment ils affûtent aussi leur préparation en vue de Roland-Garros? Émilie Loye, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Tout va super bien.
Elle est en pleine forme, elle est resplendissante. Carole Bouchard, bonjour.
Bonjour à tous.
Elle a un sourire, alors je vous raconte même pas. Comment vous dire? Novak Djokovic représente une sorte de deuxième idole pour Carole Bouchard après Marat Safin.
Mais Rafa était là aussi. Finale des choupettes, comme j'ai dit.
Et je vous trouve presque arrogante en ce moment.
Absolument,
Carole Bouchard,
pas.
Ça ne va pas du tout.
Jaloux.
Elle revient d'un endroit où tous les amateurs de tennis auraient aimé être. En présence, tenez-vous bien. On est très bien entourés aujourd'hui. Hein. D'André Agassi et de Steffi Graf. Rien que ça, elle les a vus.
De ses yeux vus.
Myrtille Rambion, bonjour.
Je les ai touchés.
Comment vont-ils?
Ils vont super bien, c'est la grande forme. Surtout Steffi, elle est au taquet.
Ah, pourquoi Dédé a pris un peu de poids ou...
Non, il était un petit peu fatigué, mais elle est plus ouverte que quand elle jouait. Enfin, c'est... Non, ils sont bien.
Ils vont venir à Paris?
André Agassi va venir cette année à Paris, va jouer avec Jim Courier pendant Roland-Garros. Steffi Graf viendra l'année prochaine. Elle a fait une exhibition à Halle, donc elle ne sera pas là à Paris.
Eh, quand même, eh.
Hein,
merci Rambion,
il y a de l'info.
André vient à Paris. Oubliez Agassi.
Merci Rambion. Bon, j'ai mangé avec Dédé, Steffi. Bon, tu vois. Facile pour moi. Et puis, the last, but not the least. L'homme qui aujourd'hui est dans le journal, messieurs dames. Attention, Julien Varlet, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, rendez-vous, messieurs dames, page 17 du journal L'Équipe, tout en bas à gauche. Alors, c'est en bas à gauche, hein, mais quand même.
Il est là.
Le chiffre 8. En année, le temps qu'il faut remonter pour trouver trace d'un Rafael Nadal perdant un set sur terre battue contre un joueur moins bien classé que Paolo Lorenzi, c'était Julien Varlet, le 1er mai 2003, à Aix-en-Provence, 5-7, 6-1, 6-4. Julien, respect. C'était sous mes yeux, j'y étais.
Ah non, c'était une bonne expérience. J'avais déjà perdu sur lui, j'avais abandonné à Cherbourg parce que j'avais une gastro à la fin du premier set et c'était vraiment une belle partie. Puis j'avais fait un bon match et il était un peu jeune, je crois qu'il était aux alentours des 90.
16 ans il avait.
Et il avait vraiment sur le circuit, tout le monde en parlait. Et, je me suis dit bon, c'est bon, j'ai gagné le premier 7-5, un peu dur, il risque de plier. J'avais pris 6-1 dans le deuxième et puis une belle bataille au troisième et j'avais perdu. Mais
et Nadal avait perdu en finale de ce tournoi face à Mariano Puerta. Mais quel beau souvenir.
Ouais,
Julien,
c'était sympa.
Julien, qui au passage, parce qu'on a de fidèles auditeurs qui nous écoutent toutes les semaines, vous savez que la semaine dernière, il se préparait pour jouer un match.
Ah mais oui,
de match par équipe à Rueil Malmaison.
Il a porté son point décisif en double.
La hanche bionique, ah ouais. 18.
Non, d'ailleurs, ce qui est au super, super marrant, c'est qu'en fait, j'ai joué un joueur qui est 80 mondial en double qui s'appelle Frank Moser. Et à la fin du match, il me dit: mais pourquoi je te vois plus sur le circuit? On discute un peu. Et puis je lui dis: bah, en fait, j'étais opéré et maintenant j'ai une prothèse. Et il se retourne vers son copain et dit: t'imagines, on a perdu sur un mec qui a une prothèse de hanche. Et là, c'était que du bonheur.
Ah, c'est bon,
c'était
ça.
Que du bonheur. Donc voilà.
Bon,
hey. Non, sympa.
C'est fou, hein, c'est fou. Bon, allez, on revient quand même à nos moutons. Désolé.
Puis au vrai tennis, nos
votre
tennis.
Belle carrière, Julien, non, et votre retour en match par équipe, mais
non, c'est.
Alors, l'actualité, bien sûr. Comment ne pas commencer par Monsieur Novak Djokovic, vainqueur du Master 1000 de Madrid, toujours invaincu, et qui a donc enfin fait tomber Rafael Nadal après 37 succès consécutifs sur terre battue. J'avais presque envie de dire, c'était un peu attendu. Il l'avait presque annoncé, Novak Djokovic. Alors on se disait, bon, ok, il annonce toujours des choses et il est super confiant. Il l'a fait. Il l'a fait, Carole Bouchard.
Il l'a fait. Et... bah, on voulait savoir. On voulait, enfin, je voulais voir du Nadal contre Djokovic sur terre battue. Alors certes, en altitude, certes, sur une surface un peu plus rapide. Mais moi, je retiens les quatre premiers jeux du match. Où, honnêtement, jusqu'à 4-0, j'ai jamais vu Nadal autant dominé sur terre battue. Après, ça s'équilibre, mais dans le jeu, tactiquement, je pense que le problème est là pour Rafa, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre face à lui. On en a parlé et reparlé, le revers de Djokovic sur le coup droit de Rafa, c'est un truc hallucinant. Ça part à une vitesse, il n'y a rien qui le gêne. Donc là, l'ascendant psychologique, le visage Nadal à la fin de ce match, ça veut tout dire.
Trois victoires consécutives de Djokovic face à Nadal, les trois en finale de Master 1000 à Indian Wells, à Miami et donc à Madrid sur terre battue. Il y a deux ans, Julien, il l'avait accroché en demi-finale, 4h03 de jeu, trois balles de match. Nadal avait gagné. Là, est-ce que ça change la donne? Alors, on va d'abord revenir sur le match en lui-même, tactiquement parfait de la part de Djokovic.
Moi, je trouve, c'est ce qu'on avait dit il y a quelques semaines. Il a changé, je trouve, sa position. Quand il joue, surtout quand il joue Nadal, c'est qu'il se rapproche un peu plus de sa ligne. Donc, il peut commettre quelques erreurs côté revers, mais il subit pas les effets, la diagonale, fameuse diagonale de gaucher qui remonte énormément dans son revers. Au contraire, il vient à l'opposition. Et là, c'est là où ça lui permet de prendre un peu l'ascendant dans l'échange et de venir gêner Rafael Nadal. Voilà. Moi, je trouve vraiment, bon, il joue super bien. Et ce qu'il change quand il joue Nadal, c'est qu'il se rapproche de sa ligne pour pas subir les coups très sortants de l'Espagnol.
Alors, le revers, Émilie, c'est vrai que sur ce match, en tout cas, même si c'est le cas depuis le début de la saison, depuis toujours, mais sur ce match en particulier contre Nadal, c'est vrai qu'il a joué côté revers. Autant il a eu un tout petit peu de déchet côté coup droit, autant côté revers, ça a été le festival, quoi.
Un monstre. Et son revers le long de la ligne, c'est tout juste un truc incroyable. Moi, il m'effare parce que, bon, effectivement, là, c'est en altitude, donc les conditions vont être différentes de Roland-Garros. Rome, je le mets un peu entre parenthèses parce que, voilà, quoi. Ils sont peut-être un peu fatigués, je sais pas dans quelle disposition ils seront cette semaine. Mais j'ai vraiment le sentiment que Djokovic a pris l'ascendant au-delà sur l'aspect tennistique, c'est même physiquement. Physiquement, je le trouve au-dessus de Rafa, c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour l'Espagnol. Alors après, une nouvelle fois, ça va être en 5-7 à Roland, donc il va vraiment falloir du coffre. À mon avis, d'où l'importance du tableau et des premiers tours, laisser le moins d'énergie possible. Mais j'ai un peu peur, j'ai vraiment le sentiment qu'il a quand même pris déjà, dans un premier temps, l'ascendant psychologique à l'image des quatre premiers jeux du match. Parce que les quatre premiers jeux du match, je veux bien que Djoko joue bien, mais Rafa est pas là non plus, quoi.
Ah, y a deux balles de break pour Nadal au premier jeu, hein.
Mais on le sent pas, on sent un petit peu une mise en route un petit peu lente, on le sent craintif, on sent qu'il a pas, d'habitude il arrive sur le terrain, c'est vraiment un rock, quoi, il arrive, il est prêt, on sent qu'il a sa base tactique, et là on l'a senti un petit peu plus hésitant, ce qui lui coûte d'ailleurs, je pense, cher au final. Mais purée, sur l'ensemble, l'autre il m'impressionne.
Alors, est-ce qu'il est vraiment sur un nuage, et c'est l'interrogation qui demeure, est-ce que quand il va perdre, est-ce que ça va faire diminuer de 5, de 10, de 15, de 20% son niveau de jeu parce que là, il joue vraiment en pleine confiance? Ou est-ce qu'il a atteint un niveau qui sera le sien moyen pour les prochaines semaines? Et dans ces cas-là, Djokovic, on se demande qui va pouvoir le battre, Myrtille.
Non, moi, je pense pas qu'il va baisser de niveau, c'est pas possible. D'autant que je suis d'accord avec Émilie, d'un point de vue physique, moi, il m'a impressionné. Alors, son revers, ouais, il a été monstrueux,
hein,
sur tout. Vous vous rendez compte, la hauteur de rebond, enfin, ouais. Bon, en plus, là, c'est en altitude, enfin, c'est incroyable, mais physiquement, sur les déplacements, il a joué le jeu de Rafa, et quand il y avait des échanges en plus de 20 coups, voire à 30 coups de raquettes, c'est lui qui faisait le point à la fin. Donc ça c'est bon, et on sait que maintenant physiquement il s'entraîne mieux, enfin qu'il a quelqu'un qui le suit, il a un diététicien. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de perdre ce niveau-là. Maintenant, attention Nadal, bon, il a perdu, c'était quand même des finales. Et effectivement, ça va être en 5-7, ça va être bien différent. Et il y a bien un moment aussi où Djoko va perdre, c'est obligatoire.
Alors je voudrais qu'on s'attarde sur Djoko avant de parler de Nadal, parce qu'il y a plein de choses à dire bien sûr sur Rafael Nadal. Une première défaite sur terre battue pour lui depuis si longtemps, c'est pas anodin. Sur Djokovic, vous me dites quand il va perdre ou il va continuer à jouer comme ça. Moi, je pense quand même que quand vous êtes en pleine confiance et que tout vous réussit, ça change la donne. Et je prends pour exemple le fait qu'il n'a raté dans ce match que des coups à 30-0 ou 40-15. Il n'a jamais raté un point important à 30A.
C'est là la différence. Quand,
à chaque fois que Nadal revenait à 30A sur son service, Djoko derrière, boum. En général, il faisait les deux points derrière. Ces points-là, ça peut tout changer, Julien. Est-ce que la confiance ne permet pas quand même de gagner ces points, et dès qu'il va y avoir une défaite ou un jour moins bien, ça peut changer, ça peut tenir qu'à quelques points. Hein.
Ouais, non, mais après, la confiance ou... Moi, je trouve que c'est quand même encore plus fort. C'est quand on dit on est en confiance, ça dure peut-être un, deux tournois. Mais là, c'est quand même depuis le début de la saison.
Depuis décembre.
Voilà, ça fait 30 matchs où vraiment, il est intouchable. Donc, je pense qu'il a atteint un niveau de jeu qu'il a jamais atteint et qui peut-être il n'atteindra plus. À un moment ou un autre, il va avoir comme une baisse. Mais il aura tellement acquis de confiance que voilà, il se dira, il a des schémas de jeu, des fondamentaux dans son style de jeu qui font que voilà, quand il joue dans cette zone-là, il sait quasiment qu'il va faire le point, qu'il est au-dessus de ses adversaires, que physiquement il se sent bien. Et puis aussi, je trouve que sa gestion des émotions, il les gère beaucoup mieux. On l'avait déjà vu en Coupe Davis, après l'Australian Open, mais voilà, il s'énerve pas, il reste calme, il est vraiment dans son truc. Donc ça fait que ben voilà, actuellement c'est le meilleur joueur au monde.
Justement, plus que dans le jeu, moi je trouve que c'est mentalement qu'il a changé, parce que regardez 2007-2008, déjà il bat Federer, déjà il bat Nadal, déjà il était pas loin, il était dans ce trio, mais mentalement les fameux points à 30A, il les perdait, les matchs en 5-7, il s'envoyait en vrille tout seul. Je pense que physiquement il a fait un boulot, il s'est posé, mais mentalement à mon avis il y a eu du ménage qui a été fait, il mûrit tout simplement et il surjoue pas. Moi j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui est en pleine chaleur, qui a toutes les lignes. Les points ils sont construits, le revers long de la ligne, il peut le mettre 50 fois dedans. C'est maîtrisé. Et le jour 100, il l'a eu contre Bellucci. Contre Bellucci, il est 6-4-3-1.
Bah oui, mais si c'est pas Bellucci, il le perd ce match.
Si c'est pas, il allait le chercher le deuxième set. Hein,
oui,
l'autre
mais...
lui a pas donné.
D'accord.
Ah, mais voilà, le jour 100, il l'a eu, il s'en est sorti.
C'est
donc
vrai.
Faudra voir par contre une défaite. Je sais pas, mettons, il arrive en. Il perd à Roland en première semaine ou en finale.
Non.
Oui, mais on parlait d'une défaite qui va le faire dérailler. Moi, pour moi, la seule défaite qui peut le faire dérailler, c'est une défaite qui fait mal, pas à Rome. Rome, s'il perd, le fera pas sortir de son, tu vois.
Moi, je me rappelle du match l'année passée, en quart, où il domine complètement Melzer. Et il se retrouve à perdre en 5-7 alors qu'il a vraiment le match en main.
Là, ça ne devrait plus arriver.
Mais c'est le genre de match qui peut quand même arriver sur un Roland Garros sur 15 jours en 5-7.
Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le devoir Federer Nadal, quoi.
C'est ça.
Possession de pouvoir. Oh, Nadal, on va pas l'enterrer parce qu'il a perdu. Je vais pas l'enterrer parce qu'il a perdu la semaine dernière.
Bien
évidemment. Oui.
Pour la place numéro 1, d'ailleurs, il dit c'est mort. Hein. Parce que non, mais on s'est
mais ça, c'est du Nadal, ça.
Non, mais il a
non,
raison.
Mais quand il arrive, il a raison.
Il y a 1800 points, il en a encore 5 ou 6 000 à défendre.
Oui,
voilà,
c'est sûr.
Oui, mais il faut quand même que, même à Rome, il faut quand même que Djokovic gagne et que Rafa n'aille pas en demi pour qu'il soit numéro 1.
Oui, donc ça devrait jouer à Roland.
Donc il y a quand même encore une petite marche, faut faire attention.
Ça devrait se jouer à Roland.
Bon après, Rafa a raison, c'est que la place de numéro 1, on voit vraiment, c'est en fin d'année, après le Masters, qui termine numéro 1. Mais dans l'année, là, il va forcément se la faire shipper.
Ça relance complètement la lutte de pouvoir sur ce circuit, c'est fantastique.
Oui, mais après, je veux dire, il le mérite, hein. C'est lui qui gagne tous les tournois, il est au-dessus. Donc c'est pas biaisé, quoi. Je veux dire, c'est pas concours de circonstances comme on l'avait dit, où Nadal est blessé, qui peut pas jouer, que voilà. Là pour le coup, c'est vraiment sur le terrain. Donc,
alors est-ce que le match de Novak Djokovic et cette victoire face à Rafael Nadal n'a pas montré tout simplement la tactique parfaite pour jouer contre l'Espagnol? Parce qu'on dit toujours qu'il faut agresser Rafael Nadal, monter au filet, l'attaquer en 2-3 coups de raquette. Le problème, c'est qu'on connaît tous la qualité de passing désormais de Nadal. Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas plutôt en se collant sur la ligne, en refusant que la balle monte, en jouant, on va dire, un peu au ping-pong, mais aussi du fond du court, sans être gêné côté revers, qu'on
qui
fait
peut
le plus
faire
mal
ça
à
encore faut-il pouvoir
qui
le
peut faire,
faire
ça.
Exactement.
Voilà. Et sur la longueur. Donc là, c'est pour ça que ça va être intéressant.
Parce
allez,
que
on s'y prend tous à rêver déjà de la finale.
C'est magnifique.
Djoko Nadal à Roland Garros, parce qu'en 5-7, je demande à voir ça.
Qui peut tenir
mais
le coup droit
attention, s'il y a
ça,
le fameux pic de forme de Rafa, je l'ai pas trouvé au niveau de sa longueur de balle, c'est quand même très moyen. Sa qualité de balle, elle était pas excellente.
Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Minder, sans forcément bien jouer, ses derniers tournois, il se rate pas non plus. Il fait trois finales de suite.
Oui, mais
il est pas au top.
Oui, mais on disait ça. On disait ça à Indian Wells et Miami en disant, bon, le mec, il est pas encore parfait. Mais il ne perd qu'en finale contre Djokovic sur la surface qui avantage Djokovic. Là, le problème, c'est que à Madrid, c'est sur terre battue, le contexte est à peu près le même et il perd encore.
Il a pas fait un
Donc c'est vrai que Nadal n'a pas encore atteint, je pense, la plénitude de sa saison sur terre. Est-ce qu'il va l'atteindre cette année? Peut-être pas non plus. Hein.
Est-ce que c'est pas l'autre
Peut-être
qui l'empêche?
Peut-être pas.
Aussi,
non, mais t'as raison, ça, oui. L'avenir nous le dira. Mais
parce que quand on le voit, alors on va y revenir après, mais quand on voit le premier match d'hier, c'est sans doute aussi le contre-coup de Madrid.
Mais attention, là, c'est dans la tête et puis après. Oui.
Mais la tête, c'est hyper important.
Ils sont à Roland Garros déjà, ils sont en train de se préparer, ils en ont rien à foutre de.
Je pense que Rome, je suis d'accord avec Emilia. Je pense que Rome, c'est sans intérêt.
Ils vivent, ces joueurs-là, ils sont 1 et 2, ils vivent que pour les grands chelems. Ce qu'ils veulent, c'est aller soulever
Parce que Madrid, ça a été l'avant-Roland. Je pense que Rome. Mais hier, il avait clairement le Djoko dans la tête. Hein.
Alors, est-ce qu'il aurait dû. Alors, je sais, valable pour Nadal, mais c'est à mon avis surtout valable pour Djoko. Est-ce qu'ils ont bien fait d'aller à Rome? Est-ce que perdre à Rome. Je reviens toujours sur cette histoire de dynamique de victoire de Djokovic. Alors, il va peut-être gagner Rome aussi. Hein.
Mais s'il perd à Rome,
mais
c'est pas grave.
Est-ce que s'il perd à Rome avant Roland.
Ça va pas entamer.
C'est non, pas non. Ça n'entamera pas. Non,
pas maintenant qu'il a battu Nadal à Madrid. Hein.
Moi, je
il aurait perdu
pas,
à Madrid, oui. Mais là, il a déjà. Il sait qu'il l'a fait une fois.
Je pensais qu'il aurait pas joué, moi. Je me doutais que Rafa aurait joué Rome. Et je pensais que Djokovic, justement, allait pas jouer Rome pour
le sponsor de Rome, c'est Tacchini. Hein. Et il a repris la terre battue qu'à Belgrade, hein, Djokovic. Hein. Il a pas joué Monte Carlo,
ouais,
Barcelone.
Puis,
et,
ça fait quand même 15 jours sans compète, même s'il s'entraîne, long. Même s'il va pas rester chez lui à Monaco sans rien faire. Vaut mieux qu'il joue quand même un tournoi la semaine prochaine. Il est complètement off. Donc même s'il perd, moi je me fais pas de soucis pour lui.
Disons qu'ils sont tellement au-dessus des autres.
Voilà.
S'il perd
contre, Almagro, Söderling ou quoi. Ok. Mais alors après c'est pas arrivé. Mais s'il perd contre Nadal en finale. Ok, il dira je l'ai fait à Madrid donc je peux le faire. Mais d'un côté, tu es plus complètement en chaleur avec l'ascendant psychologique et surtout l'autre t'as rebattu une fois avant Roland donc c'est surtout l'autre qui reprend confiance. Et je pense que Djokovic quelque part offre une possibilité à Nadal de se redonner confiance avant Roland alors que s'il n'avait pas joué Rome, Nadal serait arrivé en face de Djoko éventuellement à Roland avec aucune victoire contre lui, avec 3 défaites en finale consécutive, avec le doute tout simplement.
Ouais, mais encore faut-il
après,
que ce soit les mêmes finalistes.
Se joueront pas, voilà, peut-être qu'ils se joueront pas.
Ça serait énorme.
Perdre,
vous rendez compte?
À mon avis, j'aurais plus abandonné quoi. C'est le style
Vous vous rendez compte si jamais.
Ouais, si j'ai pas bien, je le vois bien.
Si jamais on avait sur 4 Master Series les deux mêmes finalistes, bon, avec à chaque fois le même vainqueur peut-être ou pas, mais ça serait énormissime. Déjà, ils sont 1 et 2, c'est sûr. Et puis il faut juste accepter qu'en ce moment, le vrai numéro 1, c'est Djokovic. Souvenez-vous. Federer qui gagnait tout, c'est exactement pareil. Le type, il est en confiance. Voilà, maintenant, Roland Garros, ça sera autre chose.
Ce n'est plus qu'une question de jour ou de semaine, en tout cas, ça on l'a dit, pour que Djokovic soit numéro 1. Ça sera
peut
quand
arriver,
même
là, hein.
Un petit événement. Oui, ça, alors ça arrivera si Nadal perd avant l'ennemi et que Djokovic gagne à Rome. Sinon, ça arrivera à Roland Garros ou au Queen's ou au Wimbledon.
Ce qui est intéressant, c'est que Rafa vit ce qu'a vécu Federer. Et c'est là qu'on va voir, parce qu'il a toujours été le chasseur. Il a chassé derrière Roger, il lui est passé devant. C'est la première fois que lui, il a un mec qui arrive derrière et qui peut prétendre à le bousculer. Psychologiquement,
Et ce serait la première fois depuis 2004. Depuis 2004. Donc 7 ans. Qu'on aurait un autre numéro 1 mondial que Federer ou Nadal.
C'est le changement de génération.
C'est incroyable.
Par rapport à Federer, c'est le changement de génération aussi. Hein. Djokovic n'a que 23 ou 24 ans. Nadal n'a que 25 ans.
C'est vrai que c'est un petit peu plus vieux pour Roger Federer. On va y revenir après Roger Federer parce que lui continue de dire qu'il vise la place du numéro 1.
Il est fantastique,
mais,
Roger.
Non, mais pourquoi pas?
Non, mais ça, c'est la méthode
Couée. Je crois pas, non.
Moi, je repars sur le circuit là, en mois de septembre.
Septembre déjà en forme.
Septembre, moi je suis comme ça.
Oh, Rachida Dati a pris le boulot après 5 jours.
Roger est fantastique, Roger est éternel.
Ouais, Roger est éternel. Alors, arrêtons-nous quand même sur Rafael Nadal. Lui aussi, psychologiquement, cette défaite, il l'a essayé de la minimiser en disant oui, Djoko a mieux joué que moi. Mais est-ce que ça peut vraiment le toucher en vue de Roland ou pas?
Moi je pense pas parce que c'était. Non. Non, après, le seul petit hic, c'est que il perd chez lui à Madrid en Espagne. Mais je pense qu'il a une telle confiance, même si hier, par exemple à Rome, sur Lorenzi, c'est dur, il s'accroche, en jouant très très mal, mais il s'en sort quand même.
La première fois que je le vois jouer si mal, moi, sur terre battue.
Mais il gagne quand même, donc non, je pense que ça peut caler mieux pour Nadal.
Ouais. Alors, un petit mot sur ce tournoi de Madrid. Les fameuses conditions en altitude.
Oh, mais faut qu'ils arrêtent.
Non, mais est-ce que. Alors, ça, on va demander aux anciens joueurs pro, que sont Julien et Émilie. Est-ce que le fait que ce soit en altitude et est-ce que le fait que la terre battue soit un peu plus rapide, est-ce que vraiment ça peut être un vrai changement est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération en vue de Roland-Garros? Ou est-ce que c'est une pseudo-excuse, même si Nadal ne l'avance pas?
Non, mais après, ce sont des joueurs pros, donc ils s'adaptent à toute situation, mais ça n'a rien à, les conditions n'ont rien à voir. Même si c'est 650 mètres d'altitude, ça reste 650 mètres d'altitude.
Non, est-ce que ça pénalise Nadal concrètement?
Mais il a gagné contre Federer l'année d'avant.
Non.
Après, faut pas.
Mais après, tu vois, de toute façon, tu regardes aussi Madrid. Non, mais non, la défaite, elle est là et elle est bien là. Mais tu vois aussi qu'à Madrid, au niveau des résultats, les joueurs, les attaquants, les joueurs offensifs ont quand même bien joué. Je veux dire, un Mikael Audra qui fait quart.
Ouais, mais est-ce qu'il joue bien parce que ça va vite ou parce que le tableau a quand même été super favorable?
Bah, favorable, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. D'accord. Ça avantage quand
après,
même.
Après, c'est sur Nadal, quoi.
Les balles sont plus vives. Putain, c'est quand même.
Cela dit, pour avoir joué pas mal à Roland Garros avec les balles de Roland, je peux dire qu'on n'est pas en altitude, mais ça gicle grave, hein. Parce que cette année, ça a changé de sponsor.
Ah oui, non, on les a joués à Monaco, ça a giclé aussi.
Ça a changé de sponsor.
On l'en a envoyé dans les bâches.
C'est assez babo là, maintenant.
Surtout moi.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est aussi sponsor de Nadal et tout ça, mais les balles, elles giclent bien, quoi. Ça rebondit. Donc, les lifts de Nadal, ça devrait bien envoyer, je pense. Après, voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça.
Parce que c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, oui, mais attention, à Roland, les conditions seront différentes. Et je me demandais à quel point ça pouvait influer sur éventuellement le...
Alors, pour en avoir discuté aussi avec les personnes qui font les coups à Roland, elles ont été vues qu'il a fait très beau en avril, elles ont été prêtes très rapidement. Donc, elles risquent d'être un peu plus sèches qu'en temps normal. Et plus des balles un peu rapides, un peu qui rebondissent énormément, ça peut avantager quand même les lifts et des joueurs un peu plus attaquants, même.
Donc plutôt Roger et Rafa du coup pour le coup.
Ouais, mais pourquoi comme il va pleuvoir
d'ici là.
Arrête de dire des
choses
pareilles.
Bah, je pense qu'on va se prendre de ces orages qu'on n'a pas pris en avril.
Les fameuses sans glace.
Ah, je pense qu'on va mourir à Roland cette année. On va se prendre la flotte toute la semaine. Ça va être l'enfer. Quoi.
Et moi psychologiquement, je me demande quand même si ça l'a pas marqué. Hein, Nadal, c'est parce que il dit Miami, ça m'a fait mal. Bon là, j'en prends un nouveau coup derrière la tête. Quand il est sur le terrain face à Djokovic, moi je sens pas le pitbull qu'il peut y avoir face aux autres joueurs. Je sens pas le mec serein comme quand il joue Federer parce qu'il sait qu'il a la tactique quasi gagnante.
Et il est quand même bousculé par Federer en demi aussi. Hein.
Alors, et là où il la pêche un peu en ce moment, c'est à la conclusion, parce que Federer en demi, il a un break d'avance dans le premier, il se fait remonter. Donc, je sais pas moi si finalement dans la tête, depuis Indian Wells, le Serbe lui est pas quand même rentré dans le
Federer
zone.
Federer,
hein.
Le joueur Roland Garros, ça fait.
Ah bah
3,
oui,
4,
ça je suis
pire,
d'accord, ouais, c'est... ça c'est clair. Hein.
Non mais c'est sûr.
Non mais je.
Sur la... Enfin c'est sûr, un est
à
sûr.
À moins qu'il se pète une hanche.
Mais...
Ça doit être compliqué pour lui. Novak Djokovic, moi je suis aussi surpris, enfin j'ai été surpris quand j'ai commenté cette rencontre avec Clément Grèce dimanche, que Nadal s'enferme dans l'usure côté revers de Djokovic. En gros, donc dans son jeu classique de terrien, Nadal est plutôt un garçon qui m'avait habitué à s'adapter et à être capable. Bah, pas vraiment.
Il a tenté le coup droit, il s'en est préparé.
Mais très peu, très peu.
Mais...
Il est quand même, il s'est enfermé dans la tactique d'aller user le revers de Djokovic. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire autrement?
Mais il est gaucher, il faudrait
ou est-ce qu'il s'est trompé?
Ouais, mais c'est un peu là, entre guillemets, les fondamentaux sur terre battue, c'est jouer les diagonales, s'ouvrir un peu le terrain, ensuite rentrer. Et étant gaucher, voilà, il est venu dans le revers de Novak Djokovic, qui est entre guillemets la tactique la plus basique, la plus simple.
C'est
sur
bien
terre
contre
battue.
Federer, mais contre Djokovic, est-ce qu'il ne faut pas au contraire ouvrir des couloirs?
Comme contre un mec, comme contre un joueur comme Del Potro, quoi, qui est grand, qui a un très bon revers, ou même un Söderling, qui voilà, ils sont moins usés côté revers.
Mais ça voudrait dire qu'il doit décroiser tout le temps pour jouer contre. Et c'est pas facile, hein.
Et aussi, j'ai remarqué son fameux revers. C'est vrai qu'il avait énormément progressé en revers, Rafael Nadal. Là, j'ai trouvé que pour le coup, il arrivait beaucoup moins à accélérer, croiser côté revers. Il slicait beaucoup moins pour casser le rythme. Et donc, il n'arrivait pas à aller chercher le coup droit de Djoko. Et c'est un petit peu surprenant.
Mais aussi parce que le coup droit de Djokovic est meilleur que le revers de Nadal. Non, mais c'est terrible parce que tactiquement, quand il joue dans cette filière du fond, sur la ligne de fond, s'il prend le revers, son coup droit contre son revers, on est en train de se rendre compte que finalement c'est du 50-50 et que le Serbe prend l'avantage. Mais de l'autre côté, c'est pas gagné non plus le coup droit du Serbe face à son revers à lui.
Mais là, vous êtes en train de me dire que Djokovic est plus fort tout simplement sur tous les compartiments du jeu.
Je pense qu'il doit essayer de slicer d'ici 15 jours pour. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Même des coups de défense. Il est à la rue côté revers, il a essayé de rejouer lifté, alors qu'un petit slice à mi-court bien bas, le Serbe est tellement bon à hauteur de hanche et à hauteur d'épaule qu'il doit varier beaucoup plus. Et à mon avis, le slice peut lui être très important.
Mais est-ce ou que monter au filet.
Est-ce que c'est pas, pardon, justement,
parce que t'as vu les passings de l'autre?
Parce que physiquement, Nadal est... Attendez, il est quand même super bon par rapport à la majorité des très bons joueurs.
Mais
est-ce qu'il est pas au top, un peu en deçà, et que du coup, moins en confiance. Du coup, peut-être un chouïa en retard. Et du coup, bah, même le slice, il n'arrive pas à le passer. Je sais
bah
pas
ouais,
ce que ça peut
raison,
jouer ça.
T'as raison, parce que je le trouve un peu moins bien physiquement. Mais alors, est-ce qu'on le trouve un peu moins bien physiquement? Parce que l'autre en face est monstrueux, physiquement. Et joue très vite. Ça, je sais pas, mais c'est vrai que tu le sens plus essoufflé. Tu sens que sur la longueur, il est moins frais que d'habitude.
À Monte Carlo, il n'y avait pas Djokovic et on avait déjà eu cette sensation. Alors, on a dit, c'est le premier gros tournoi sur Terre, donc il va monter en puissance. Mais moi, je n'ai pas encore vu, hormis...
Barcelone, moi, je ne l'ai trouvé pas mauvais.
Non, mais il a joué quelques bons matchs contre Monfils à Barcelone, par exemple. Mais je ne l'ai pas encore vu sur 2, 3, 4 jours d'affilée, depuis le début de la saison sur Terre. Je ne l'ai pas encore vu à son niveau habituel. Donc... c'est vrai que ni à Monte Carlo, ni à Barcelone, ni à Madrid, il n'a enchaîné 2-3 matchs impressionnants, Rafael Nadal. Donc peut-être que ça va venir pour Rome ou pour Roland, mais d'habitude, après, à ce moment-là de la saison, il est quand même déjà
en ligne de rien. Il a toujours, comme on le dit, il a toujours ce niveau moyen qui lui permet d'aller dernier carré ou même gagner. Maintenant, voilà, peut-être qu'il est peut-être dans une phase, mine de rien, où il se sent un peu moins bien. Et voilà, comme je le dis, à un moment ou à un autre, Djokovic, je vais avoir ce petit trou aussi. Donc, mon avis... sur le Grand Chelem, sur Roland Garros, on va voir un tout autre visage de Rafael Nadal. Qui fasse finale ou vainqueur ici à Rome, s'il fait vainqueur, c'est encore mieux. Mais je pense qu'on va voir un autre joueur sur Roland.
Pas si joueur. L'an dernier, il
un
avait
un autre, pas un visage complètement. Il va pas enchaîner séries isolées, autant voler. Mais je pense que il va vraiment hausser son niveau de jeu et puis là, il va rentrer vraiment dans le.
Par exemple, il dit depuis la saison sur terre battue qu'il joue trop court.
Ouais, mais ouais, c'est vrai.
Qu'il recule trop.
Ouais.
Voilà, il le dit, mais ça fait 3 tournois qu'il le dit, et c'est pas pour autant qu'il a réussi à avancer et à jouer plus long.
Ça dépend contre qui.
Pourquoi il arriverait demain à Roland Garros?
Ça dépend contre qui. Il y a eu des matchs où il a joué sur sa ligne.
Oui. D'accord.
Oui, non, mais je
pense
que.
Dans l'absolu, il n'y arrive pas depuis le début de la saison sur Terre.
Je pense que physiquement, il est quand même moins bien. Donc c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Parce que jouer long, ça, tu vois, ça demande un certain engagement physique. Te faire aspirer par la bâche, c'est plus facile que de jouer sur ta ligne de fond, de jouer à l'intérieur du terrain. Quand tu regardes même à la télé, ils ont mis tous les points de frappe où il a frappé. Tout est à
90-10. 90-10. Et Djoko était à 75-25. Ouais, c'est-à-dire qu'il a frappé 25% de coups à l'intérieur du court contre Nadal.
De rentrer dans le court. Djoko lui permet absolument pas de jouer le jeu qu'il a l'habitude de jouer.
Moi, ce qui m'embête un tout petit peu dans le jeu de Nadal, c'est que c'est encore un peu plus forcé qu'en temps normal. C'est-à-dire que je trouve qu'il arrache énormément ses frappes. Il a le corps qui l'emmène un peu derrière, donc c'est pour ça automatiquement qu'il joue court. C'est un peu moins délié qu'en temps normal. Alors peut-être que c'est un petit manque de confiance, de jeu de jambes, probablement, mais ça finit
tout doucement.
Le coup
droit part moins bien.
Mais disons que ça va ensemble. Il est dominé quelque part par Djokovic. C'est normal qu'il soit plus arraché, plus tendu. Enfin.
D'où cette fameuse confiance, encore une fois, de Djokovic. Parce que on n'en a pas parlé, c'est anecdotique. Mais il a tellement tout qui va dans son sens. N'oubliez pas qu'à 6-5 au premier set, sur le jeu de service de Nadal. Non, à 6-5 pour Djokovic, Nadal sert pour revenir à 6 partout. Et Djokovic, voilà, conclut le set avec notamment deux lettres. La balle qui retombe juste derrière le filet.
Quand
ça veut, ça veut.
Ça
quoi.
Veut. Non, mais
et oui, non, mais ça se joue et sur le jeu décisif du premier set.
Pour en arriver là, il y a eu à 5-3, 30-0, où tu te dis c'est bon, il va finir le set, il fait 2-3 choix douteux, et tu vois que le Nadal, il peut revenir là. Donc il suffit que.
Mais il revient.
Eh oui. Donc il n'est pas si loin. Mais Djokovic, il est tellement sur son niveau de. En haut.
Oui.
Mais il s'est repris. Parce que moi, à 5-4, 5 partout, je me dis allez, il va nous.
Mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça peut durer cet état de grâce justement où tu te reprends quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances?
Ça a duré combien de temps pour Federer et pour Nadal?
Ça a duré longtemps.
Voilà.
Mais personne, je vous rappelle, n'a gagné jusqu'à Roland Garros sans perdre de match. McEnroe a failli après 42 matchs en perdant contre Lendl en finale en ayant mené 2-7-0. Est-ce que Djokovic sera dans la même situation dans quelques semaines? On lui souhaite en tout cas aux Serbes, mais c'est vrai que ça va être quand même compliqué. Et Rafael Nadal.
Et pour la première fois depuis combien d'années, il y a du suspense sur cette saison sur terre battue avant Roland. C'est quand même bien ça.
Bah, non, c'est bien. Mais tu regardes les trois là, ils sont vraiment au-dessus quoi. Tu vois le match hier face à Joe.
Ah non, mais alors ça.
Non, mais tu regardes face à des mecs qui quand même jouent bien au tennis, tu vois. Il y a quand même un monde d'écart alors que Federer joue bien, joue mieux, mais tu vois, il est quand même un cran en dessous des deux. Et tu vois le monde d'écart qu'il y a entre les deux.
C'est vrai. Elle est parfaite, Émilie Loire, parce qu'elle fait même le teasing pour la deuxième partie, où elle va nous envoyer directement, tranquillement, sur Federer, Tsonga d'hier, et donc sur Federer Gasquet d'aujourd'hui, puisque Richard va tenter de défier donc le Suisse. Le Suisse qui, encore une fois, annonce qu'il veut redevenir numéro 1 et que c'est son objectif actuellement, et qui apparemment ne prend pas ombrage du fait qu'on lui parle beaucoup de Djokovic et de Nadal à chacune de ses conférences de presse. La suite du Master 1000 de Rome, pour évoquer notamment les Français et les filles également, ce sera juste après les infos, la pause dans Carrément Tennis.
RTL l'équipe. RTL L'équipe.
Croisé court gagnant.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis consacrée bien sûr essentiellement au Master 1000 de Rome, dernier tournoi, gros tournoi préparatif avant le début de Roland-Garros et un immense favori désormais, Novak Djokovic, toujours invaincu depuis le début de l'année et qui a fait tomber Rafael Nadal sur terre battue en finale de Madrid la semaine dernière. Nous allons nous intéresser dans cette deuxième partie au sort des Français, Tsonga qui a perdu hier contre Federer et Gasquet qui défie le Suisse aujourd'hui. Un Gasquet dont on apprend dans la bouche de son nouvel entraîneur Ricardo Piatti qu'il bosse comme un fou et qu'il n'est pas loin du déclic. Alors faut-il croire Ricardo Piatti ? Faut-il espérer pour Richard Gasquet ? On va en débattre ce matin avec tous nos spécialistes dans Carrément Tennis. Nous reviendrons également sur le couac de Gilles Simon face à Sheila à Rome, un petit peu surprenant alors que Simon avait fêté son retour dans le top 20. Faut-il s'alarmer pour Simon et faut-il s'alarmer surtout pour Gaël Monfils qui après les allergies au fromage n'arrive pas à s'en remettre, il est toujours malade, il ne joue pas Rome. Dans quel état va-t-il arriver pour Roland Garros? On lui souhaite bien sûr d'être parfaitement remis, mais il va manquer de match et de rythme, Gaël Monfils, avant Roland Garros. Et puis on parlera des filles, bien sûr, avec le tournoi de Rome, là aussi, tournoi mix cette semaine. Wozniacki, Jankovic, Azarenka, tout le monde est là, même Schiavone, bien sûr, chez elle en Italie, avant de défendre son titre à Roland Garros. Tout se met en place aussi chez les filles, et là, bien malin, comme l'an dernier, qui va trouver le vainqueur ou la vainqueur de Roland Garros.
RTL L'équipe, Carrément Tennis.
Toujours en compagnie d'Émilie Lois, de Julien Varlet, de Carole Bouchard et de Myrtille Rambion. On va s'intéresser donc à Roger Federer au travers de ces deux confrontations face à des joueurs français. D'abord celle d'hier et la victoire facile 6-4, 6-2 face à Joe Wilfried Tsonga et celle qu'il attend aujourd'hui face à Richard Gasquet, auteur de deux bons premiers matchs face à Montagnès et Andreev, des victoires convaincantes à chaque fois en deux petits sets pour Richard Gasquet. Alors d'abord, Roger Federer qui se dit plutôt bien, qui a fait un bon tournoi de Madrid, qui a bousculé un petit peu Rafael Nadal, qui a perdu qu'en demi-finale en 3-7. Le voilà lancé désormais vers Roland. Il n'a pas l'air de s'inquiéter, Roger Federer. Il continue à prétendre qu'il est bien, à dire qu'il vise la place numéro 1. Alors, fameuse méthode couée ou pas, Julien Varlet?
C'est le papa tranquille, il fait le job, il est présent, il vient titiller un peu Nadal, mais il le bat pas. Voilà, il est tout. Je pense qu'il, sincèrement, je trouve même qu'il fait tranquillement le boulot. Mais dans son attitude, on sent pas vraiment de rébellion, de vouloir aller, vraiment reconquérir. Alors, je me trompe peut-être, hein, j'espère, parce que ça prouve que, voilà, il a encore cet orgueil et cette motivation. Mais dans son attitude, moi, je le sens un peu las quand même de temps en temps.
Qui partage ce point de vue et qui, au contraire, pense que Roger Federer cache un peu son jeu, peut-être, je sais pas.
Mais il cache très bien, alors, hein, parce que depuis Indian Wells, il le cache très,
oui,
très bien.
Oui, pour moi, il cache son jeu dans le sens où il nous dit qu'il veut redevenir numéro un mondial. Non, mais
faut arrêter,
c'est pas vrai. Enfin, bien sûr qu'il aimerait, mais...
Mais c'est, si, c'est pas, cette 286e semaine...
Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'ils sont en opération commando pour nous faire... Encore une fois, il a 30 ans, il a plus rien à prouver, il a un palmarès exceptionnel et ça, personne peut lui enlever. Et il peut gagner un grand chelem encore, mais il peut gagner quoi, Wimbledon ou l'US? Eh ben, très bien. Eh ben, Roland Garros, je pense que personne attend de lui qui brille. Et puis, il nous refait le coup à chaque fois, tout va bien. Moi, je trouve que j'ai pas fait des mauvais six premiers mois. Non, d'accord, mais enfin, à chaque fois, il cale en demi, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas honteux.
Mais il joue bien quand il joue hier, il est suffisant. Par moment, il arrive sur l'amorti, il fait le truc. Il prend l'autre pour une quiche. Il t'en gagne 4 et 2. S'il est un peu au taquet, ça fait 2 et 2. Ciao, quoi. Et c'est pour ça qu'il s'amuse. Et comme le dit Myrtille, personne n'attend à ce qu'il va gagner Roland Garros. Il peut gagner Wimbledon, certes, mais bon. Quand on regarde aussi les conditions de Wimbledon qui sont sur. Voilà. Lente.
Limite, maintenant, je dirais
plus lente.
Que je le vois plus sur l'US que...
Voilà.
Après,
donc,
à moins que les deux autres se pètent devant, je vois pas comment c'est
il va
possible.
Être numéro 1. Attends.
Quand tu vois jouer Nadal contre Djokovic et que t'as en souvenir les matchs de Nadal contre Federer à Indian Wells ou Miami, tu te rends compte, les
moi,
différences de
je
niveau.
Garde en mémoire cette phrase de Julien Varlet prononcée il y a trois ans, en finale de Roland Garros quand Federer prend une doudoune énorme face à Nadal. Julien avait dit à ce jour-là, Roger Federer ne peut plus battre Rafael Nadal sur terre battue et encore moins à Roland. Et c'est vrai.
Ça reste toujours.
Ce n'est plus arrivé.
Bah non, puis c'est toujours ma pensée parce que physiquement, comme le dit Myrtille, de toute façon, plus entre guillemets le temps arrive, plus il vieillit, moins il est rapide, et puis c'est fait boule de neige et de la motivation est moins présente, donc il a plus forcément les armes. Oui, il va peut-être faire sa petite demi une fois de plus.
Et maintenant il doit en battre deux coup
mais,
sur coup.
Mais voilà, maintenant, soit en plus, soit il a Nadal ou soit il a Djoko en pour demi. Ensuite battre l'autre derrière, c'est quasiment impossible.
Notamment sur terre battue, bien sûr.
Il y a physiquement et puis mentalement, même si voilà. Limite, on a la sensation qu'il joue plus vraiment maintenant pour se faire plaisir, pour le beau jeu, pour le beau tennis, que, entre guillemets, bien mal joué. Alors, ça veut dire pas forcément briller, mais d'aller chercher
la victoire. Tout de même, j'ai quand même envie de vous dire que moi, quand j'ai vu le match et que j'ai commenté le match la demi à Madrid contre Nadal, alors certes, il
Nadal
a perdu.
Nadal était à l'envers. Hein.
Certes, il l'a perdu. Certes, Nadal était à l'envers. Mais moi, j'ai quand même vu un Roger Federer qui, enfin, a attaqué Rafael Nadal, a joué son jeu, n'est pas rentré dans celui de Nadal à vouloir l'avoir du fond du coin alors qu'il ne peut plus le faire. Voilà, au moins j'ai vu un prémisse de changement tactique, de volonté d'essayer de jouer en 2-3 coups de raquette.
C'était mieux, mais
il paraît que c'est ce qu'il travaille à l'entraînement.
En tout cas, il l'a fait. Il le faisait pas avant contre Nadal.
Mais est-ce que justement, c'est pas pire parce qu'il l'a fait, il a perdu quand même.
Ouais, mais bon, tu peux pas non plus reprocher d'essayer.
Non, mais dans ces cas-là.
Bah, s'il l'avait pas fait, il aurait pris 2-2. Donc,
tu peux pas sortir de ce match-là en disant voilà, il peut battre Rafa parce qu'il a pris un set en jouant la meilleure
technique possible. C'est mieux que quand tu prends 2-2.
Mais est-ce que le vrai problème de fond. Après, moi, je suis pas surtout comparé. Enfin, voilà, Roger Federer, c'est mieux que tout le monde. Comment il faut faire pour bien jouer, pour gagner. Mais est-ce que le vrai problème, c'est pas qu'il accepte enfin, parce que moi, j'ai le sentiment, vu de l'extérieur en tout cas, et à l'entendre et à le côtoyer, qu'il n'a pas accepté qu'il n'était plus celui qu'il a été, qu'il n'était plus l'homme invincible, qu'il n'était plus l'homme qui accumulait les records. Mais à partir du moment où il accepte ça, il va pouvoir accepter de faire des, ce que j'appellerais des opérations commando. Et quand on voit dans l'histoire du jeu des Sampras, des Agassi, c'est à partir du moment où ils ont accepté de n'être pas plus rien, mais pas plus grand, enfin d'être plus grand chose et de d'y aller sans avoir rien à perdre et d'y aller en mission et au combat à chaque match. Là, ils ont pu gagner. Là, ils ont pu gagner notre grand chelem. Je pense qu'il faut qu'il accepte. Et c'est peut-être une question d'orgueil aussi. Hein.
Alors, on
je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que
mais
tu
l'humilité,
dis.
Mais
il
voilà.
y a toujours pour moi une phrase, tu es sur le terrain comme tu es dans la vie.
Oui.
Et après, il a la classe et tout ça, mais il a un certain orgueil sur le terrain qu'il doit avoir aussi dans la vie. Et il veut pas, il, comme tu dis, il veut pas bien mal jouer. Se dire, voilà, je vais être derrière ou je vais m'accrocher. Je vais... Non, non, lui, c'est dans la classe, c'est dans le timing. Et voilà, et puis il va
se... Parce qu'il pense qu'il est meilleur que les autres, fondamentalement.
Je crois pas. Il le déclare, mais il peut pas le penser.
Il peut plus le penser.
Il peut plus.
Après, c'est Roger quand même.
Mais non, mais on parle de jeu à ce jour. Je parle pas du tout de palmarès. Il a un palmarès qui est.
Non, mais je te parle même dans le jeu. Moi, je suis sûr et certain qu'il pense qu'il a une estime de lui.
Il doit voir qu'il est en dessous. Entre ce qu'il déclare pour impressionner les autres. Et ce qu'il pense lui, d'ailleurs, ça se voit sur le terrain.
Mais pas sûr, parce que même, regarde, tu vois, il fait demi à Madrid, il prend un set à Nadal. Il doit dire, si ça se trouve, je suis à 70%, je prends un set à Nadal. Si je suis à 100%, je le bats.
Non, si non les mecs, ils se connaissent grave.
Moi, je pense que c'est
grave. Quand t'es sur le terrain, il se connaît grave, il voit qu'il est quand même, il est pas au niveau par rapport aux deux autres. C'est horrible.
Pour lui,
de s'avouer, enfin, moi, c'est ce que je pense, de s'avouer ça avec le palmarès qu'il a, c'est un truc de malade.
Et encore se l'avouer par rapport à Nadal, je pense qu'il en a pris l'habitude, de voir commencer à accepter que Novak Djokovic est plus fort que lui, je pense que là, ça va commencer à faire mal.
Ah, bah, surtout si, il y a le petit Père Meuret qui arrive dans le coin, qui lui met quelques doudounes, alors il va être au fond du sac.
Ah, mais le Père Meuret, il l'a remis à sa place en le battant 2-3 fois.
Ouais, non, mais.
Mais on parle pas de notre ami Tsonga, de son match.
Alors justement, je vous écoute parler de Federer, vous êtes quand même juste, hein, mais sévère. Je me dis, alors à quel niveau est Joe Wilfried Tsonga qui prend 4-2
Mais moi, c'est pas le problème. C'est
non, mais attends, on est sévère parce que là, on parle de quelque chose qui est, tu vois, on parle
de l'élite.
Summum, quoi, de l'élite. Voilà. Alors effectivement, mais comment il s'appelle Federer, il est au-dessus des autres.
Comment il s'appelle le petit sud mec Federer, là qui joue au tennis
Federer, ce que je disais tout à l'heure, il est au-dessus des autres.
Mais alors, mais Tsonga,
là, on
il est...
parle par rapport à Nadal et Djokovic, alors, mais par rapport à Tsonga, il y a
Tsonga, on sait plus quoi en penser parce qu'il fait un match oui, un match non. Alors, est-ce qu'il fait un match non ou est-ce que Federer était vraiment trop fort?
Moi, je pose juste une question. Quand je lis ses déclarations, il dit que tactiquement, il l'a pas bien joué et que sur terre battue, Federer il joue plus vite que tout le monde et qu'il aurait dû reculer. Alors, c'est moi qui suis stupide ou il l'a quand même déjà joué plusieurs fois, Roger Federer. C'est pas un junior, le Suisse. Les joueurs savent comment le jouer quand même maintenant, Federer.
Est-ce que Tsonga sait ce qu'il veut faire?
Parce que moi, quand je vois le match, je me dis qu'il était complètement à côté de la plaque.
Ça ressemble vraiment à un garçon, alors pour qui on a toute la sympathie du monde, mais qui a envie de, qui a plein de bonne volonté, qui veut dire je reviens de la simplicité, je vais jouer sur mes points forts et tout ça. Le problème, c'est que d'une semaine sur l'autre, d'un match sur l'autre, dans le même tournoi, t'as l'impression qu'en fonction de l'adversaire, des conditions dures, il est un peu perdu quand même.
Bah, c'est de la terre aussi, il faut oublier que c'est pas un joueur de terre.
Ah bah dans les déplacements ça se sent, je veux dire qu'hier Federer il l'a fait courir mais comme il voulait.
Moi je pense que là actuellement Joe il joue sur terre à la sensation. C'est-à-dire que si un jour il se sent plutôt pas mal, il y va, il rentre dedans comme il a pu faire contre Baghdatis, en plus l'autre est un peu en dedans. Mais quand il joue Federer, il est un petit peu moins bien, l'autre le prend tout de suite un peu à la gorge. Il joue vraiment à la sensation et c'est ce qui entre guillemets moi je me rappelle de la doudoune qu'il a pu mettre à Nadal à l'Australian Open, c'était à la sensation, il rentrait à 200%.
Mais ça tu peux le faire quand t'es sur ton nuage, quand tu l'es pas.
Mais bon.
Mais je pense que c'est sa faiblesse aussi, c'est que moi j'ai le match d'hier, j'ai pas vu honnêtement, c'est Federer évidemment que ça va être super difficile. Mais aller jouer tout le temps sur le côté coup droit, enfin faut être suicidaire.
Alors, un autre qui doit jouer sur la sensation, c'est Richard Gasquet.
Arrête.
Ben oui.
Non, mais moi
alors, c'est lui qui s'attaque à Federer aujourd'hui.
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle pas de lui. Il est top 20, il fait son petit truc, il gagne ses petits matchs.
16e.
Cela dit, moi, on parle de lui, je pense qu'il plus il est content. Donc, il fait son petit truc, il est peinard. Il va arriver à Roland.
Il a pas de chance,
on n'aura quasiment pas parlé de lui. Et si Astro, il va nous sortir. Moi, je le vois bien.
Deuxième semaine.
Ouais, minimum deuxième semaine, Richard.
Ah, mais moi aussi, hein, je mise sur lui depuis le début de la saison.
Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a espéré,
il n'a pas un bon tirage là encore.
Mais c'est Roland.
Il joue Roger. Tu vois, il y a quand même deux tirages qui sont quand même plus sympas.
Ouais, enfin, il joue Roger en 8e. Il aurait pu jouer un Nadal, un Murray, un Almagro ou un Djokovic.
Ouais,
je suis pas sûr que Federer soit le plus mauvais tirage.
C'est quand même plus sympa.
Dans la tête, c'est pas Federer, quoi.
Ouais.
Moi, j'adore les déclarations de son nouvel entraîneur. Alors, où on nous parle qu'il travaille. Parce que tous les 6 mois, on nous parle d'un équilibre.
Mais il doit travailler.
Moi, je pense que souvent, les gens sont quand même mauvaise langue. Richard, c'est toujours un mec qui s'est entraîné. Alors après, pas forcément du 1er janvier au 31 décembre, mais il est sur le court et qu'il a son entraîneur, sincèrement, pour le connaître, il s'entraîne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais parfois, il y a 15 jours, il
plus que le fait qu'il travaille, parce que je suis d'accord avec Julien, il a toujours bossé. Après, peut-être, il a moins bossé que d'autres.
C'est quand même bizarre de devoir noter dans des articles qu'on vous jure,
Mais parce qu'après, t'as une réputation
mais
aussi.
Mais tu bosses plus ou moins bien, c'est ça aussi.
Ce qui est, je trouve intéressant dans la démarche, en tout cas de ce que nous apprend Ricardo Piatti, et je pense qu'il n'y a aucune raison que Ricardo Piatti nous balade en nous racontant des trucs. Bon, il n'a aucun intérêt à le faire, le coach italien. C'est que il évoque une demande de Gasquet. Un plaisir, c'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a des moments dans sa carrière où Gasquet, il s'est entraîné 3 heures parce que son entraîneur lui a dit on s'entraîne 3 heures et c'est comme ça. Mais là, d'après ce que dit Piatti en tout cas, c'est qu'il y a une volonté de la part de Richard, il est en demande de faire des choses. Et ça, je me dis, c'est ça qui est positif. Parce que être obligé de jouer 3 heures, bon, mais si t'as pas envie, voilà. Alors que là, apparemment, c'est vraiment lui qui en demande.
C'est pour ça, quand il dit il travaille, il a toujours travaillé, je sais pas, je le connais pas bien, mais j'imagine, pour être à ce niveau-là, de toute façon, il a forcément bossé plus ou moins bien, c'est que là, il doit bosser et bien le faire. Parce qu'être 3 heures sur le terrain, tout le monde est capable de le faire. Mais c'est l'intensité et la qualité que tu y mets. Donc je pense que, puis attends, Piatti, ça va, à mon avis, il a d'autres demandes. Si l'autre, il a pas envie de s'entraîner, il a Ljubicic avec qui il a fait une carrière de dingue. Toi, c'est pas l'entraîneur français qui est là, qui a que Richard et qui a limite qui mise toute sa carrière sur Richard. Piatti, c'est quand même un autre
Richard
bonhomme.
A peut-être compris.
Donc
aussi,
je pense qu'effectivement, il doit bosser.
Bah, il dit, je sens que. Voilà.
Il manque le déclic.
Il dit peut-être qu'il y a quelque chose vraiment de bien qui se prépare.
Bah, on verra.
Moi, je pense à Wim. Vraiment, je pense à Wim parce que.
Il peut jouer sur toutes les surfaces. De toute
déjà,
façon.
Ça, c'est un des gros avantages de Richard.
Il tient et que,
mais à Wim.
Parce que souvenez-vous de Madrid quand même. Là, il se passe
le
tour
problème,
à Rome.
Le problème, c'est que même si là, il joue bien, bon, après, on ne sait pas ce que ça va faire contre Federer. Le problème, c'est qu'à Roland, Richie, c'est Roland quoi. Quand on se rappelle le
Richie,
tout premier Roland qu'il fait, au bout de 4 jeux, il avait des crampes à la main. C'est toujours la même histoire.
De toute façon, pour tout français, c'est l'angoisse de jouer à Roland.
Non, mais c'est fou, ça, quand même.
Bah ouais, moi, je comprends pas.
Attends, tu joues chez toi. Tu joues chez toi, c'est ta surface, t'as le public qui est là, t'as qu'une seule envie, c'est de briller.
Si t'es 10e mondial et que t'es en position de gagner, que t'as une pression excessive, je comprends. Mais quand t'es... pour Gasquet, c'est vrai qu'il a été dans les 10, mais quand t'es un Simon ou un Tsonga, on t'a jamais vendu comme le mec qui allait gagner Roland. Donc tu peux pas dire que t'as une pression excessive.
Mais t'es vert, parce que même si Tsonga, c'est pas sa surface, t'as envie de faire quelque chose de bien. Tu demandes à n'importe quel Français, Tsonga, sa surface, on va dire, c'est le gazon. Il va préférer, si tu veux, mieux bien figurer s'il a le choix à Roland-Garros que sur gazon.
Oui.
Et si tu perds donc la première semaine, tu te fais lyncher par tout le monde. Tsonga, on
va dire. Mais tu te fais pas lyncher puisque c'est comme ça depuis 10 ans.
Eh ben oui, mais Tsonga, quand il perd l'année dernière, il s'est fait.
Mais non, mais tu peux pas, par exemple, comparer la pression qui s'exerce sur les Français à Roland à celle qui s'exerce sur Murray à Wimbledon, par exemple.
Ah, mais après, on parle de.
Ça n'a rien à voir.
Après, on parle de mental de champion.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Oui, mais ça dépend de la personne.
Quand tu me dis Murray, il arrive à Wimbledon, le mec, il est. Oui, là, je dis OK parce que voilà, il est tout seul, ça fait.
Ouais, mais c'est humain, non, vous trouvez pas? Non, mais après, il la gère plus ou moins bien. Je sais pas, Julien, tu dis.
C'est ça.
Moi, il va pas arriver. Quand tu regardes à chaque fois, souvent les joueurs français qui jouent plutôt pas mal à Roland, c'est ceux qui, au contraire, donnent et prennent vraiment du plaisir à jouer plus que se mettre une pression en disant faut que j'y arrive. Richard, à chaque fois, il s'est dit faut que j'y arrive. À Roland, il s'est complètement planté. L'année passée, il a pas de chance parce qu'il arrive complètement cramé à Roland. Mais je pense qu'il faut vraiment le prendre plus par un truc cool, sympa. Alors après, c'est facile à dire. Puis bon, j'ai jamais fait quart à Roland. Mais que dans l'esprit de dire, oh là, faut vraiment se mettre la pression de dingue. Et c'est peut-être pour ça aussi que Gaël Monfils a réussi quelquefois à bien jouer à Roland. Parce que voilà, lui, il arrive, il a pas de pression, il se fait plaise. Ça se passe bien, ça se passe mal. Entre guillemets, sans être vulgaire, il emmerde un peu tout le monde. Voilà quoi.
Bon, il faut pas qu'il mange de fromage. Hein.
Non mais c'est terrible quand même.
Le fromage est interdit dans les restaurants des joueurs à Roland cette année.
Non mais c'est fou.
Mais la pression, enfin alors... je sais pas, moi je me mets à la place des joueurs. La pression quand tu rentres sur le terrain, t'as le public et tout, t'as quand même un truc, t'as la chair de poule. C'est normal que ça te prenne plus que
non,
quand t'arrives.
Non mais ça d'accord, mais sauf que tu m'enlèveras pas de l'idée que le public parisien, en plus qui est pas toujours nickel, gasqué sur le court, c'est pas, on sort pas les drapeaux, machin, tout ça. Je suis limite à penser que contre un Federer ou contre un Nadal ou contre peut-être pas un Djoko parce qu'il a pas encore dans le cœur du public.
Ils seront pour.
Ben oui, non mais je suis pas loin de penser que le public est presque partagé.
Mais c'est encore pire, c'est horrible, Eric.
Tu peux pas dire que t'as une attente du public incroyable parce qu'il t'attend même pas.
Mais si tu le chauffes un peu, le public, il est là, il est pas si effectivement il est exigeant. Tu peux vite te faire siffler si t'es nul. Je parle en connaissance de cause. Les sifflets arrivent très vite. Mais si tu joues avec le public, il est quand même assez sympa, quoi. Effectivement, c'est pas un public, c'est pas l'Amérique du Sud ou l'Australie où ils sont chauvins à mort. Mais il est quand même pas si dégueu que ça.
Enfin, mais j'ai pas dit qu'il était dégueu. Je dis juste qu'il mettait pas une pression aussi excessive qu'on peut le croire sur les joueurs français. C'est-à-dire qu'il y a pas une attente. Il y a pas une attente. Terrible du public français.
Moi, je me mets à la place. Hier, je passais devant Roland. Ils sont en train de tout mettre et tout en place. Et toi, tu repenses au truc et tout. Même là, on va y être pendant 15 jours à commenter, clair. Etc. Et ben, putain, tu te prends au jeu. Même si t'es pas joueur,
évidemment.
Tu vois, tu te prends au jeu.
Évidemment.
Et je me mets à la place du joueur qui se prépare. Il est en train de se dire, putain, pourvu que je sois pas malade, pourvu que je sois pas blessé, pourvu que j'ai pas ne serait-ce une contracture, pour peu que le matin, je me réveille du bon pied. Enfin, toi, il se passe tellement de trucs. Enfin, c'est hyper
dur à gérer. Alors, je vais être.
Alors, on sent du vécu dans ta voix.
Mais c'est ce qui se passe.
Je vais être provocateur.
Chez les mecs, ils le vivent plus ou moins. Tu vas pas arriver. Promettons de Roland. Ouais, super bibi. Je prends mon café, moi, crois.
Je vais être provocateur. Ok, je comprends tout ce que tu me dis, mais est-ce que ça, c'est pas aussi franco-français de se créer presque des problèmes qui n'existent pas par peur tellement.
C'est pas se créer des problèmes, c'est quelque chose de réel.
Oui, mais d'accord.
Mais ça arrive aux Américains, à l'US Open.
Mais oui, attends, parce que là, on est focus sur les Français, mais ça arrive partout.
C'est la même. Moi, je trouve qu'ils boivent un coca.
Une qui a vraiment l'état d'esprit. C'est mine de rien, c'est Marion Bartoli qui a dit je vais pas changer mon jeu pour Roland Garros, je joue comme je suis.
Non mais
voilà. Après elle a aucune attente, mais c'est sûr qu'elle va pas limite si elle fait deuxième semaine, c'est un miracle.
Mais
au moins pour le coup elle se met pas de pression quoi.
Le champion là gère pas la pression, pareil que le top 30 ou le top 50. Nadal à Monte Carlo a dit mais quand je vais arriver à Roland, je sais que je vais être nerveux le premier tour, c'est intégré, je le sais. Après il gère. Et ben après il y en a qui gèrent et d'autres qui gèrent pas.
D'accord. Bon,
gestion de l'événement.
C'est très clair. C'est très très clair. Alors mon fils, qu'est-ce qu'on voit?
Ah bah, comme d'habitude,
c'est
on sait
pas. Le point d'interrogation.
Comme d'habitude.
Bah, c'est comme dur chaque de année. Se prononcer parce que là.
comme d'habitude.
Non mais son allergie. Alors son allergie.
Mais tous les ans c'est pareil.
Son allergie au fromage. Année, c'est là, ça. Ok. La semaine dernière, on a un peu rigolé avec ça parce que sur le coup, on a trouvé ça drôle. Derrière, on apprend quand même que ça fait. Il peut pas jouer Rome, ça fait 10 jours qu'il est malade.
Il fait des examens. Il a dit qu'il rentrait faire des examens parce qu'il se sent sans énergie, sans rien et qu'il est pas bien. Mais on sait jamais.
C'est l'approche de Roland, quoi.
Ouais. Alors c'est vrai que tous les ans c'est pareil.
Non, surtout pas, me parlez pas de Roland, arrêtez de me.
Non, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on ne sait pas qu'il arrive à Roland. On se dit oulala, il va jouer, il va pas jouer, dans quel état il est, on sait pas. Mais on en parlait avec Émilie il y a quelques jours. Ça, c'est possible quand on est plus jeune, hein, Émilie. C'est ça. Mais alors, plus on vieillit, plus c'est dur de pas être préparé.
Moi, je pense qu'à un moment donné, là, il a brillé à Roland Garros en arrivant sans préparation. Quand tu regardes le niveau de jeu, il arrivait un petit peu là. Tu vois, avec cette fougue, la jeunesse, etc., il y a un moment donné, ça a pu passer.
La chance du débutant.
Voilà.
Entre guillemets, ça.
Ouais. Il y a un moment donné, bah, là, il n'a pas joué en début de saison, il a commencé à prendre, là, il ne joue pas, il va arriver sans... Ouais.
Parce que là, il n'a pas fait un vrai gros tournoi, quoi.
Mais et tu te
rends compte ? Il va le payer.
Et pourtant, il est top 10.
Puis mine de rien,
il a quasiment pas joué depuis le début de la saison.
Oui, parce que ses points après sont concentrés après.
T'as besoin de mine de rien encore un peu plus. On le voit, mine de rien. Bon, Del Potro, il s'est blessé, mais la saison sur dur est une chose. Quand on arrive sur terre, on a besoin d'entraînement, on a besoin de voilà de jouer, de faire des matchs pour avoir du temps de jeu. Et ce temps de jeu, il l'aura pas. Et tu peux pas le récupérer en 2-3 matchs sur Roland. Donc moi, à mon avis, mine de rien, il va arriver court. Ou alors, une fois de plus, il va faire un coup de blues, il va blouser et il va avoir un trou un peu dans son tableau. Et là, il peut vraiment. Oui. Mais sinon, c'est pas possible. Il va arriver sur des mecs qui vont être méga prêts.
J'ai du mal à.
N'attendons pas trop donc de Gaël Monfils, si ce n'est une belle surprise en vue de Roland Garros. Vous allez vraiment m'houspiller. Je suis en train de regarder le chronomètre et l'heure qui tourne. Il faut absolument qu'on parle des filles.
Ouais, c'est ça.
Alors, on parle de quoi?
Kvitova, on passe dans un tunnel. Excusez-moi, Eric.
Alors, moi, j'ai
Kvitova, Azarenka.
Je vais peut-être me faire insulter. Je peux me faire insulter parce que je sais que ça va être le cas. Moi, je trouve que les filles, là, pour le coup, c'est un peu moyen à Rome. C'est que, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, Émilie, les filles, vous allez me dire. Je trouve que, on parle souvent du tennis féminin et voilà, il n'y a pas assez, on n'en parle pas assez, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas assez. Il y a un gros tournoi, un tournoi mixte, juste avant Roland Garros, la plupart des meilleurs ne jouent pas. Alors, est-ce que ce sont des blessures diplomatiques ou que ce sont de réelles blessures?
Alors, attention, la plupart des meilleurs, vous pensez à qui?
Non, mais après, bah,
mais attendez, parce que, au-delà de ça, le problème, c'est ça.
C'est les blessés.
Les meilleurs. Mais qui sont les meilleurs?
Ouais, non, ou les noms les plus connus, quoi.
Elles sont là, tu vois. Attends, regarde.
Georges, elle a gagné, elle gagne Stuttgart, elle joue pas derrière. Vitova ne joue pas non plus. Voilà, c'est des filles qui arrivent aussi sur le circuit. Alors voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Parce que regarde, tu as quand même.
Moi, si vous voulez, mais les sœurs Williams, c'est pas fait pour parler du tennis.
Les sœurs Williams sont blessées. Clijsters est blessée. Wozniacki numéro 1, elle est là. Skiavone qui a gagné Roland l'année dernière, elle est là. Azarenka qui est la fille en forme du moment, elle est là.
Svanareva est pas là.
Stosur finaliste à Roland, elle est là. Sharapova et Jankovic qui essayent de revenir, elles sont là. Donc voilà, il manque Vitova qui vient de gagner Madrid.
Oui, mais alors Vitova qui joue un ITF à Prague plutôt que d'aller jouer le premier event de Rome.
Ça, on peut se poser la question.
Et la WTA, je sais pas, mais ça devrait être un truc qui est juste pas possible. Je veux bien, c'est chez elle,
après,
c'est à Prague.
C'est chez elle, c'est à Prague.
Ouais, mais
voilà.
Mais Madrid, c'est vrai que
quand tu rentres dans le top 10, que tu viens de gagner un gros tournoi, que tu t'approches de Roland et que tu vas jouer un ITF.
T'aurais joué Saint-Gaudens, toi, avant Roland.
Pour les
organisateurs,
c'est pas normal.
C'est-à-dire que physiquement, je pense pas qu'elle est. Déjà, elle joue très très bien. Elle a un mental, c'est un truc de fou. Elle a gagné Madrid. Là, si elle se remet dans le rouge à Rome, ça peut être dangereux pour ce genre de joueuse à Roland Garros.
Tu sais que gagner que Madrid avant Roland, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein.
Non,
pas
qui vous faites aller. Mais attends, physiquement,
elle a quand même puisé dans ses réserves.
Non, mais au-delà de ça,
ça me choque pas, moi.
On râlait, souvenez-vous, quand il y avait les Navratilova, Evert, Sabatini, Graf, Céleste et Dominette. Graf, non, mais j'y pense parce que j'y étais il y a pas longtemps. 22 titres du Grand Chelem, 377 semaines numéro 1 mondial, mais ça n'arrivera plus, pas là, pas avec les filles qu'on a. Le problème, c'est qu'on a qui, sérieusement?
Mais cela dit, moi, ça me plaît, hein, parce que chaque semaine, c'est différent.
Bah, ça me plaît, ouais, en même temps, c'est compliqué.
Visages,
mais ouais, mais c'est la numéro 1 mondiale, c'est qui c'est.
Là, on a déjà, de la chance, c'est que c'est plus Wozniacki et le reste du monde. On a de la chance qu'Azarenka se soit réveillée.
Parce que ça a été Wozniacki et le reste du monde.
Depuis Melbourne, elle a quasiment tout raflé, Wozniacki. Bah, peut-être, mais depuis cette saison, à part
il y a eu Azarenka à Miami.
Oui, voilà, on a de la chance qu'elle se soit réveillée, Azarenka.
Moi, j'ai envie de voir Azarenka que Vitova, Roland. Voilà. J'ai envie de voir ces deux filles. Pas
mais
forcément en finale d'ailleurs.
Là,
j'ai envie de les voir jouer à Roland, voir si elles peuvent franchir le cap, de dire voilà, on est attendu maintenant. Sur ce Roland, il n'y a pas de favori qui se détache. C'est nous qui avons eu les meilleurs résultats avant.
Après,
j'ai envie de voir si elles sont capables de passer le cap.
Ce qui va se passer, c'est qu'une
Azarenka. Ce que je ne crois pas pour Petkovic, par exemple, je sais, on en a déjà parlé plein de fois.
Non, parce que Petkovic, tennistiquement et tout, ça n'a rien à voir au niveau de.
Azarenka avec Vitova, elles doivent. Azarenka avec Vitova, cette année à Roland, elles doivent être en demi.
Ouais, et puis si elles font finale, tu sais ce qui va se passer? Ça va faire 1-1 en finale. Parce qu'elles vont.
Ah, pas en finale. Moi,
bah ouais,
pas,
mais bon.
Moi, je pense pas, parce que regarde, Kvitova et Azarenka dans les finales, elles passent rarement à côté. Hein. La Kvitova à Madrid en finale,
moi,
elle sort son meilleur match.
Je sais pas ce qu'elle a, mais moi, j'aimerais discuter avec elle, mais elle m'impressionne.
Elle a une main gauche.
La nana, elle te sert à 5-4. Elle sert pour le match. Attends, elle joue son meilleur jeu du match, quoi.
Elle tremble pas.
Son meilleur tennis. C'est quand même un
mais
truc.
Mais ce qui est fou, c'est que nous l'avait fait en début de saison.
Et
je rappelle d'elle à Paris.
Contre l'Australie,
c'est incroyable.
les grands événements la galvanisent. C'est pour ça.
C'est une vraie découverte. Le grand public la connaît pas encore assez. Mais
c'est pas une chose de terre, en plus. C'est pas une chose de terre battue du tout.
Pour nos auditeurs qui auront peut-être la chance de venir à Roland Garros.
C'est bon pour les autres.
Et qui, à cause de nous, qui n'en faisons pas assez toutes les semaines, ne connaissent pas bien les joueuses du circuit. Vous, les filles, allez voir qui on doit aller voir à Roland quand on connaît pas trop et qu'on a envie un peu de s'imprégner du tennis féminin. Quelles sont les filles en dehors de celles qu'on vient de citer qu'il faut aller voir jouer?
Caroline Garcia.
Ouais, déjà Caroline Garcia, la Slovaque qui a fait demi-finale l'année dernière. Moi, j'aime bien. Je pense qu'elle peut rééditer Cibulkova. Elle peut rééditer ce qu'elle a fait l'année dernière.
Bah, allez voir la Julia Gorgas, hein, parce que mine de rien, tout le monde avait les yeux au ciel.
Alors moi, je vais aller la voir parce que la dernière fois que je l'ai vue, je trouvais qu'elle savait pas faire un coup droit. Donc
mais non,
pour ça,
elle
je
le mettait
la
pas
voir.
Dedans. La différence, c'est que maintenant, ça rentre. Non, mais mine de rien, elle fait ces dernières semaines, elle fait un truc de dingue.
Alors elle, je pense. Alors je t'annonce.
Ça durera pas.
Je pense que je vais me planter.
Mais c'est quand même.
Je pense qu'elle passe pas le troisième tour à Roland.
Mais peut-être. Mais à la limite, elle s'en fiche.
Alors pour moi, elle a eu sa semaine là. C'est 10 jours de bonheur.
Mais c'est pas 10 jours. Depuis Stuttgart.
C'est pas 10 jours. Elle est pas loin des 20.
Elle est rentrée dans les 20.
Elle est rentrée dans les 20.
Bah cette blague.
Bah oui, mais bon, en attendant, elle a 22 ans.
Attends, je souhaite qu'une chose, c'est me tromper. Je souhaite le meilleur à cette jeune fille, mais je crois pas une seconde.
Moi, ce que j'aime bien, c'est celle que j'aime bien, c'est Safarova, mais elle a du mal.
Physiquement, elle, c'est pareil.
La copine de Berdy.
Ouais.
Ça, c'est pour situer.
J'aime bien son jeu, sa façon
de jouer. Berdy, c'est le copain de Safarova,
voilà.
c'est ça?
Bah non, c'est Safarova. Voilà,
c'était pour situer, voilà.
Berdy, je le situe naturellement. Il a gagné Bercy et tout.
Bah, Safarova, les gens connaissent un peu quand même, j'espère. Elle avait tapé Amel Mauresmo à Roland une année, elle a fait une finale à Coubertin.
Tu sais, Kandar a aussi tapé Mauresmo une année.
Diana Kandar!
Oh, elle était mannequin, elle.
C'est pas pour ça qu'on s'en souvient, hein. Enfin, pour.
Non,
pour ce plastique, plus, c'est ça?
Ah non, mais non, ouais. Non, je te rappelle qu'elle a battu Mauresmo à Roland. Tu vois, je m'en souviens pour un résultat sportif,
mais mine de rien,
pour autre chose.
On a fait Wozniacki qu'on disait il n'y a pas longtemps favorite pour Roland. Je pense que les deux défaites contre Gorgos, là, elles ont fait.
Et les Stosur Skavionet qu'on n'a pas beaucoup
non, mais
vu.
Est-ce qu'elles
peuvent nous faire une Söderling?
Jamais.
Qui a défendu sa finale à Roland?
J'ai plus confiance à limite en Stosur que Skavionet.
J'aurais dit l'inverse.
Mais ce qui est dangereux, c'est que Skavionet, en plus, elle a tout misé là-dessus.
Elle va rentrer sur terre, déjà, elle est en pleurs.
Elle a tout misé sur Roland.
Et Stosur, c'est pareil, hein, le mental, t'oublies tout de suite. Donc, non, les deux, c'est un miracle.
Bon, allez voir jouer Nali aussi, quand même. C'est pas mal, Nali, c'est à voir.
Sur terre battue, tu rigoles un peu.
C'est la pure genre.
Non, c'est à voir, Nali.
Et cela dit, tiens, mon petit Ferrari, il en est où à Rome? Il a paumé sur qui?
Mais non, il a déclaré forfait.
Ah, il a forfait, d'accord.
Malade.
Contre Cilic, il a pas joué, il était malade et il a préféré se.
Donc, il va falloir s'en méfier en Roland.
Lui, ça peut faire mal aussi.
Mais non.
Oh, mais toi, tu crois jamais en rien.
Bon, allez.
À part en Richard.
Eh ben, rendez-vous la semaine prochaine. Allez, il est midi et demi, on vous laisse en compagnie d'Elisabeth Martichou et de Laurent Bazin pour RTL Midi. Roland Garros, c'est dans une semaine. Rome, les demi-finales et la finale, ce sera à suivre en direct sur RTL L'Équipe ce week-end pendant Total Sport, pendant les grands directs du week-end. À la semaine prochaine pour Carrément Tennis.
RTL L'Équipe, la radio sport et info.